D'accord. Par contre, on observe des différences de pratiques syndicales entre les deux pays. Vous avez parlé, bon, évidemment, du mode de fonctionnement allemand. Les traits du syndicalisme français sont quand même très différents. Vous développez d'ailleurs assez longuement la notion de grève froide. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Oui, alors ce qui est vrai, c'est là où vous avez raison, c'est que lorsqu'on fait de la comparaison internationale des réalités syndicales, on est frappé hein, par l'existence de différences qui demeurent, notamment entre différents espaces, les pays latins, les pays nordiques, on a un taux de syndicalisme qui demeure fort, etc. Bon, alors, méfions-nous simplement des comparaisons un peu rapides parce que la réalité de ce qu'est un syndicaliste en France n'est pas la même que celle de ce qu'est un syndicaliste en Norvège ou en Suède, etc. Mais je passe sur ces précautions méthodologiques pour me focaliser sur la question que vous posez, qui est la spécificité du syndicalisme français et des relations sociales françaises. Je ne crois pas exagérer en disant qu'aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, le syndicalisme français apparaît, hein, je dis bien apparaît, faible et divisé. Alors, il apparaît faible si on mesure simplement sa puissance au taux de syndicalisation. Le taux de syndicalisation en France est d'environ 8-9%, hein, ce qui est relativement faible, donc ce qui témoigne d'un déclin continu depuis l'après-guerre. Le fait qui est le moins connu peut-être, c'est que le taux de syndicalisation aujourd'hui est plus élevé, par exemple, chez les cadres que chez les ouvriers. Hein, on a à peu près 13% de cadres en France qui sont syndiqués. On doit être aux alentours de 5%, quelque chose comme ça, 6% chez les ouvriers et chez les employés. Donc, il y a aujourd'hui un taux de syndicalisation qui demeure faible. Deuxième chose, syndicalisme divisé, puisqu'on a non seulement toujours présence de 5 confédérations syndicales qui sont réputées représentatives, mais non seulement on a cette pluralité de représentation, par exemple à la différence de l'Allemagne, puisque vous évoquiez ce pays à l'instant, où il y a un quasi-monopole avec le DGB, hein, confédération qui représente l'essentiel du monde du travail. Donc non seulement il y a une division avec ces 5 confédérations, mais il y a eu de nouveaux prétendants ces dernières années avec l'émergence de syndicalisme alternatif, l'exemple typique étant SUD, quoi, hein, qui est venu concurrencer les grandes confédérations. Donc faible, divisé, et j'ajouterai que deux choses peut-être moins connues vis-à-vis du syndicalisme français. D'abord, sa dépendance financière vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, alors c'est un sujet presque tabou, hein, ce qui fait que du point de vue de la recherche, c'est extrêmement compliqué à aborder, à avoir des chiffres fiables, mais lorsqu'on regarde quel est le taux d'autofinancement des grandes organisations syndicales françaises, donc grosso modo, quelle est la part dans les recettes, hein, de celles qui viennent des cotisations, des produits propres, style calendrier, agenda, etc., on s'aperçoit que les grandes confédérations françaises ont un taux d'autofinancement qui est au mieux de 30 à 40%. C'est-à-dire que le reste du budget est le produit d'aides, hein, d'ordre multiple, et notamment d'aides de type étatique, hein, sous des formes multiples, que ce soit des subventions, par des circuits parfois extrêmement compliqués, que ce soit des mises à disposition de permanents au service des organisations syndicales. Donc si je voulais être presque catastrophiste, pardon, je dirais que si l'État décider de lâcher maintenant les organisations syndicales, c'est la mort des organisations syndicales, hein, parce qu'il y a 60% de leur budget qui leur échappe, voilà, donc elles sont dépendantes en grande partie. Donc première caractéristique complémentaire, c'est la dépendance financière, sujet presque tabou. Et il y a une deuxième caractéristique qui me semble importante à souligner, c'est que les mondes du syndicalisme se sont, comment dire, diversifiés. Pour faire court, on a tous en tête une forme de représentation de l'action syndicale et du syndicalisme qui est celui qui prévalait encore dans les années 50, 60, voire même 70, qui était un syndicalisme de masse et de classe, hein, qui était extrêmement vivant, par exemple, dans les grandes industries qui étaient à la pointe des conflits sociaux, la métallurgie, les chantiers navals, etc., quoi. Lorsqu'on regarde maintenant, quelle est la réalité du monde syndical en France, on s'aperçoit qu'on ne peut plus simplement dire, voilà, c'est des modes d'action syndicaux, des formes de représentation syndicale qui existaient hier, qui sont encore présentes toujours et partout dans l'ensemble des lieux de travail. Il me semble que pour être à peu près juste et pour essayer de cartographier la réalité du syndicalisme en France, il faut distinguer au moins quatre mondes de l'action syndicale. Donc le premier qui est l'ancien monde syndical, qui est celui de l'action de masse et de classe, où l'idée c'est de faire vivre l'action syndicale à partir du recrutement du plus grand nombre possible de syndiqués. On vit l'action syndicale sur le mode de l'opposition capital-travail classique, etc. Quoi, ça serait, pour le dire vite, la représentation d'un syndicalisme que Touraine avait analysé et travaillé dans son bouquin sur le mouvement ouvrier, donc un syndicalisme qui était encore, qui avait encore toutes les caractéristiques du mouvement social au sens d'Alain Touraine. Mais il y a d'autres formes d'action syndicale qui se sont développées avec les années. Première forme d'action syndicale, c'est tout simplement le syndicalisme de service, hein. On sait très bien que dans beaucoup d'entreprises, ce à quoi sert en partie notamment les organisations syndicales, c'est d'organiser l'arbre de Noël, rendre des services aux salariés en leur offrant par exemple des conseils juridiques, organiser des voyages à la fin de l'année avec la famille, etc. quoi. Donc c'est une façon, hein, d'exister et de continuer à avoir pied dans les entreprises. Il y a une troisième forme de syndicalisme qui existe en France aujourd'hui, qui est un syndicalisme un peu timide, mais qui essaye de s'imposer comme syndicalisme entre guillemets responsable parce qu'il se veut co-gestionnaire. Donc l'idée c'est d'être présent dans des lieux de discussion où s'engagent, hein, comment dire, des décisions relatives à l'entreprise, alors que ce soit les CE, ça peut être les différentes instances dites institutions de représentation du personnel. Et là, ça concerne plutôt le syndicalisme cadre, hein, pour le dire vite, où là, il y a un syndicalisme qui veut accompagner plutôt les pratiques gestionnaires plutôt que les contester. Et puis, il y a une dernière forme de syndicalisme que l'on voit réapparaître de manière forte sur le devant de la scène sociale, c'est un syndicalisme que certains vont nommer à l'aide du substantif corporatisme, hein, c'est-à-dire des syndicalismes qui sont plutôt, qui trouvent leur identité dans des segments professionnels bien définis. Ça peut être syndicalisme enseignant, syndicalisme cheminot, etc., quoi. Donc là, l'idée, ce sont les professions qui restent au cœur de l'action collective, et c'est la référence à une identité professionnelle qui est le moteur de l'action. Alors, dans ma bouche, il doit être bien clair que le terme corporatisme n'a pas la connotation péjorative qu'on lui donne habituellement dans les médias. Elle renvoie simplement au fait que c'est la corporation de métier, et donc l'identification à un métier qui est le vecteur de l'action collective. Hein, voilà. Donc, pour être, à mon avis, nuancé aujourd'hui sur le syndicalisme en France, il faut prendre acte de cette diversité des mondes syndicaux. Alors, il reste que, vous avez évoqué la grève froide tout à l'heure, il reste que, en dépit de ces évolutions-là, il reste des formes, des façons de faire qui demeurent la marque de fabrique du syndicalisme français, et la grève froide, pour reprendre donc le titre d'un ouvrage de Christian Morel, reste aujourd'hui peut-être une façon de dire cette spécificité. Alors, pour bien comprendre en quoi il reste des spécificités françaises, on peut revenir justement sur la façon de procéder en Allemagne, qui, me semble-t-il, est assez éclairante pour marquer les oppositions. Ce reste aujourd'hui caractéristique du système de relations professionnelles allemand, c'est le système qui impose aux partenaires sociaux le modèle de la paix sociale. C'est-à-dire que lorsque vous avez négocié une convention collective, qui peut, alors il y a plusieurs modèles, hein, de convention collective en Allemagne, pardon, mais lorsque vous avez négocié la convention collective, vous ne pouvez plus revenir dessus. Et donc, la conflictualité est relativement faible, pour ne pas dire inexistante, durant tout le temps le temps où s'applique la convention collective, 2 ans au moins. Donc c'est l'obligation de paix sociale. Et puis lorsque la convention collective arrive à son terme, lorsqu'on va renégocier les salaires, le temps de travail, etc., à ce moment-là, on voit surgir des gros conflits sociaux qui sont d'autant plus durs parfois et forts que le DGB a une cagnotte qui permet de soutenir l'action syndicale. En France, ce n'est pas du tout le cas. L'obligation de paix sociale n'existe pas et rien n'empêche une organisation syndicale de dénoncer une convention collective qui a été signée la veille. Et donc on peut remettre le feu aux poudres hein, après avoir négocié. J'ajoute à ça des séquences temporelles dans comment dire dans les moments de conflit et de négociation qui ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne et qui sont bien révélateurs de ces oppositions entre les pays. En référence à ce que je viens de dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Allemagne, on commence par négocier et si on n'est pas d'accord, on entre en lutte sociale et en conflit. En France, c'est souvent l'inverse qui se passe et on démarre le conflit et après, on rentre éventuellement en négociation. Hein. Donc on a toute une série comme ça d'indicateurs qui disent combien la manière de concevoir la négociation et le conflit demeure irréductiblement différent hein, dans les univers, les mondes du travail français et allemand. Alors, très concrètement, déclinaison à partir de la notion de grève froide que vous évoquiez tout à l'heure. Donc je l'emprunte à Christian Morel. Christian Morel qui explique la chose suivante en disant ce qui spécifie le modèle français de relation de travail dans l'entreprise, hein, et fondamentalement dans l'entreprise, c'est que les organisations syndicales françaises ne sont pas assez puissantes pour jouer le jeu d'une négociation à part entière. C'est-à-dire que lorsqu'on observe des négociations dans les entreprises françaises, on s'aperçoit que les entreprises, les organisations syndicales, eh ben, rentrent rarement dans le vif de l'objet et sont plutôt en situation de refus même de la négociation, plutôt que être en capacité de produire des contre-modèles gestionnaires. Pour prendre un exemple très concret, ce qui est frappant lorsqu'on regarde les négociations dans les entreprises à propos du temps de travail en France et en Allemagne, on s'aperçoit qu'en Allemagne, les syndicats font des contre-propositions d'organisation du temps de travail dans les entreprises. Ils sont épaulés par ça par des services experts, etc. Alors qu'en France, dans la négociation, les organisations syndicales disent non, on ne veut pas de ce modèle-là, mais ont une capacité de contre-proposition extrêmement faible. Hein. Donc, dans la négociation dans l'entreprise, on est plutôt en situation de pseudo-conflit. On vient à plusieurs pour imposer des rapports de force, on ne fait pas de contre-proposition, on utilise des systèmes de manifestation qui peut être, je sais pas quoi, la manifestation symbolique en mettant un brassard vert jusqu'au charivari dans l'entreprise, on va défiler dans les couloirs pour impressionner la direction, etc. Donc un modèle français où on a du mal véritablement à mettre en musique ce que serait une vraie négociation telle qu'on peut l'observer dans d'autres pays. Alors, la conclusion de Morel, qui n'est pas complètement fausse, c'est de dire, au fond, si les syndicats français sont incapables véritablement de négocier au niveau de l'entreprise, c'est précisément parce qu'ils sont faibles et divisés, ce qui revient au diagnostic par lequel j'avais ouvert la réflexion. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation de négociation, mais que vous êtes plusieurs organisations syndicales à négocier, vous n'êtes pas sûr de vos troupes parce qu'il n'y a pas assez de monde dans l'entreprise qui est syndiqué, vous ne pouvez pas vous engager de façon crédible dans des négociations si demain vous pensez que le reste de l'entreprise du côté salarié va vous faire perdre la face en disant ce que vous avez négocié, ça ne va pas. Et donc la seule façon d'être crédible, c'est au fond de mettre la pression, d'être en situation de rapport de force, mais surtout pas de s'engager dans des négociations parce que les organisations syndicales n'ont pas les ressources hein, pour pouvoir être véritablement en situation de négocier. Voilà. Et c'est vrai que dans de nombreux espaces de l'entreprise aujourd'hui, on continue hein, à voir ce modèle-là fonctionner en France aujourd'hui, quoi.